Chapitre 8. L'incident belge. Trop parler nuit. D'inutiles propos, quelques-uns inexacts, sur les mouvements de la bataille de l'Isère, amenèrent à Foch le désagrément d'une juste protestation du roi des Belges. J'ai dit la belle conduite du général en cette occasion. Pourquoi l'idée lui vint-elle de grandir son rôle aux dépens de nos amis belges dont l'héroïsme n'avait pas eu de relâche ? Albert Ier se vit contraint de relever les propos du général Foch sur l'attitude de l'armée belge qui n'avait pas fléchi un seul moment après avoir dûment reçu du roi l'ordre de tenir jusqu'au bout. Un article de M. Stéphane Lausanne, 11 novembre 1926, dans le journal Le Matin, rapportant une conversation avec le maréchal, lui fait résumer d'un mot sa fameuse théorie du commandement par suggestion. « Je n'ai pas commandé tellement qu'on le croit. J'ai amené ce qui était autour de moi à mes idées, ce qui est tout différent. Trop différent même parfois, oserais-je dire. » À la bataille de l'Isère, en novembre 1914, Foch eut à vaincre, il est vrai, les hésitations du maréchal French et le fit magnifiquement, avec un entrain qui ne laissait pas de place aux écarts d'autorité. Je l'ai dit, Foch n'avait pas le commandement en chef, mais il le prit, et nous lui devons le succès d'une décisive journée. J'ai plaisir à lui rendre cet hommage sans aucune réticence. Ce n'était pas une raison suffisante pour attribuer au roi des Belges un rôle qui n'avait pas été le sien. Ce chef excellent que j'ai vu d'une admirable fermeté dans les plus mauvais jours se trouvait avoir donné des ordres en conformité des conseils de Foch, qui aujourd'hui n'en parle pas moins de lui comme d'un chef dont il aurait eu besoin de vaincre les hésitations. De son côté, le roi des Belges, dans les conciliabules que j'avais avec lui, me disait « Je suis, de par la Constitution, responsable vis-à-vis de mon peuple, de ce qui reste de mon armée. Je ne puis la sacrifier. » À quoi je lui répondais « Sire, songez précisément à votre responsabilité et soyez certain que vous sacrifieriez votre armée si vous vous repliez. » À tous deux, je laissais deux papiers rédigés à la hâte sur un coin de table et conçus en des termes presque identiques. On restera sur place, on défendra les lignes qu'on tient. Ce n'était pas des ordres, c'était des conseils. Je persuadais seulement si bien au roi des Belges et au maréchal anglais que le conseil était bon, qu'ils donnèrent des ordres en conséquence. Et je crois bien que cette fois-là, vraiment, moi qui n'avais pas le droit de commander, je commandais. Je crois même que je n'ai jamais tant commandé que sur l'Isère, où je n'avais pas à commander. Seulement, j'avais trouvé la manière de commander. Le roi des Belges est d'un tempérament modéré, mais pas plus qu'un autre, il n'est homme à subir les rebuffades. Il répondit du tac au tac par la lettre suivante. Palais de Bruxelles, le 13 novembre 1926. Monsieur le maréchal, j'ai lu avec étonnement la relation que publie dans Le Matin M. Stéphane Lausanne d'une conversation que vous auriez eue avec lui. Il résulterait de l'opinion que vous attribue cet article qu'au mois de novembre 1914, j'aurais eu l'intention d'ordonner le repli de l'armée si vous n'étiez opportunément intervenu. Je ne puis, pour l'honneur de celle-ci, laisser se répandre pareille interprétation des événements. Je me permets de vous rappeler que le 16 octobre, quand j'ai eu l'honneur de votre première visite, l'armée belge connaissait depuis 3 jours déjà ma proclamation, au terme de laquelle devait être considéré comme traître à la patrie celui qui prononcerait le mot de retraite, et avait reçu depuis la veille l'ordre de tenir à tout prix la ligne de l'Isère. Les sanctions les plus rigoureuses avaient été annoncées contre tout chef militaire qui donnerait un ordre de retraite, quelles fussent les circonstances. Et en fait, pendant toute la durée de la bataille, aucun ordre de retraite n'a été donné. À vrai dire, dans la journée du 26 octobre, les circonstances très critiques dans lesquelles se débattaient les troupes avaient amené le chef d'état-major à envisager le repli sur une position plus en arrière, mais vous n'ignorez pas que ce projet n'a pas reçu mon approbation et que je me suis toujours opposé à sa prise en considération. Tout ceci se passait d'ailleurs au mois d'octobre, non pas en novembre. Quant aux documents écrits que vous m'auriez laissés avec vos conseils, je n'ai aucune souvenance de l'avoir reçu. Bien entendu, je sais ce que la cause des Alliés doit à votre énergie et que votre insistance auprès du général Joffre a hâté l'envoi des secours qui nous étaient si nécessaires. je me fais un devoir de vous exprimer à nouveau la gratitude que nous éprouvons tous pour votre aide précieuse en cette occasion. Mais vous, maréchal de France, personnification des vertus chevaleresques d'une noble nation, vous comprendrez, j'en suis sûr, que j'ai le devoir de maintenir intacte la réputation méritée de mes officiers et soldats, à la bravoure et à la ténacité desquels, en dernière analyse, l'heureuse issue de la bataille de l'Isère est due. Croyez toujours, monsieur le maréchal, mes sentiments dévoués, Albert. Ce fut alors seulement que le maréchal Foch songea à démentir l'interview de M. Stéphane Lausanne. Les journaux du 20, la lettre du roi était datée du 13, publièrent sa réponse au roi des Belges. La voici. « Sire, vous me permettrez de répondre à la lettre que votre majesté m'a fait l'honneur de m'adresser récemment. Je n'ai accordé d'interview à aucun journaliste, et quand M. Stéphane Lausanne est venu me voir le 7 octobre dernier, c'était pour un tout autre objet que celui qui m'amène à écrire aujourd'hui à votre majesté. Me trouvant ainsi complètement étranger à la rédaction de l'article du matin du 11 novembre, je dégage entièrement ma responsabilité du récit et des commentaires de cet article qui ont motivé votre lettre du 13 novembre. Vivant d'ailleurs dans le souvenir d'un passé toujours présent à mes yeux, je conserve fidèlement, comme je crois en avoir fréquemment témoigné, les sentiments nés dans la bataille, d'attachement et de haute estime pour l'armée belge, de profond respect pour son roi, dont je prie votre majesté de bien vouloir recevoir la nouvelle et inaltérable assurance. Foch. Les dénégations du maréchal Foch relèvent toutes de la même procédure. Il avoue aujourd'hui l'interview qu'il donna au Daily Mail sur la question rhénane et qu'il nia quand je le mis en cause. Le développement qui suit ici est tout de considérations accessoires. La question principale seule est omise. Il n'a pas accordé d'interview à M. Stéphane Lausanne, mais il a causé avec lui. Qu'est-ce que cette distinction? A-t-il dit ou n'a-t-il pas dit qu'il avait fait marcher le roi des Belges après avoir vaincu ses résistances? Et le roi, répondant que lorsqu'il a reçu la visite de Foch pour la première fois, l'ordre le plus formel de résistance sans repli avait été déjà donné à l'armée belge, c'est à cela qu'il faudrait répondre. Mais le maréchal Foch s'abstient de le faire. Et ce silence est d'autant plus significatif que M. Stéphane Lausanne, dans sa conclusion, écarte toute apparence d'une disposition à modifier son récit. C'est ainsi que le maréchal Foch, au moment où sa conduite militaire mérite tous les éloges, s'embarrasse pour grandir son rôle dans des tergiversations de propos dont il ne réussit pas à affranchir son personnage.